CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aurélien.
Salut Rémi.
Le mag du Tarn-et-Garonne s'intéresse à une grande opération, la grande fête du livre jeunesse qui va se dérouler à Montauban mercredi prochain. Partir en livre et non pas partir en live, hein, comme ça nous arrive à nous ici régulièrement. On en parle avec des auteurs et une organisatrice, et la grande organisatrice de l'association Confluence, la porte-parole de l'association Confluence, c'est Véronique Bernard. Salut.
Bonjour.
Ça va?
Très bien.
Et puis Thomas Cotto, qu'on connaît déjà, qu'on a reçu à plusieurs reprises. Auteur, animateur d'ateliers d'écriture, grand transmetteur finalement, hein, d'histoire et de...
C'est joli.
Hein?
C'est joli.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Merci d'être là, en compagnie également de Marie-Laure Despolices. Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous écrivez des belles histoires.
Merci.
Et puis vous les contez également. Thomas Cotto les compte aussi, enfin aime beaucoup la lecture,
oui,
à voix
haute.
Les siennes, qu'il écrit lui-même, et puis celles des autres aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Cette grande fête du livre donc est organisée à Montauban par l'association Confluence. Ah. Et dans divers endroits, on va voir ensemble tout ce qui se passe. Il y a des balades comptées, il y a une grande journée, il y a des ateliers d'écriture, tout ça. Mmh. Et il se passe même des choses...
Avec les enfants du centre social, ouais, toute la semaine.
De la comète. Hein.
Voilà, réservée pour les enfants du centre social. Mais autrement, la grande journée publique, c'est le mercredi prochain, le 19 juillet, dès 10h. On se retrouve à la Petite Comédie pour un atelier d'écriture-illustration dont Thomas va parler, avec Thomas Cotto et Régis Lejean. Après, on va à Place Nationale pour un pique-nique littéraire, tous ensemble, et amener non seulement à manger, mais aussi votre livre préféré. On va faire des jeux, des lectures, voilà, ça va être sympathique. Et puis à 14h30, une balade comptée avec Marie-Laure, voilà, à travers le cœur de ville. 15h30, grande fresque collective avec Régis Lejean devant la librairie Le Bateau Livre. Et puis après, dédicace et puis lecture de Thomas, qui effectivement aime beaucoup lire à voix haute, et nous, c'est toujours un plaisir de l'entendre.
Voilà, alors tout ça se passe donc mercredi à Montauban.
C'est entièrement gratuit.
Le 19 juillet. Histoire de donner le goût du livre à tout le monde.
Voilà, exactement.
On va refaire connaissance avec les uns et puis faire un peu plus connaissance avec les autres. Thomas Cotto, on s'est déjà un petit peu parlé à ce micro. Je sais que vous êtes venu sur l'écriture un petit peu sur le tard, puisque c'est en devenant papa que vous avez eu du temps à la maison, parce que vous avez décidé d'être devenir père au foyer.
Oui.
Et vous avez commencé par écrire des histoires pour vos enfants. Mmh. Et du coup, comme ça marchait bien, vous les avez fait éditer. Et vous avez aujourd'hui de nombreux ouvrages jeunesse qui sont édités chez plusieurs éditeurs.
Hein. Oui, ça fait une vingtaine d'années, et c'est toujours le grand bonheur.
Est-ce que ces histoires que vous racontez finalement suivent un peu l'histoire de vos enfants, votre propre histoire personnelle? Parce que j'ai cru comprendre que votre dernier livre parlait des histoires d'adolescents, de la place des ados dans une bande, ce genre de choses. Est-ce que c'est finalement vos inquiétudes de père qui se traduisent dans...
Rarement, en fait. Ça a rarement suivi l'âge de mes filles, plutôt mes âges à moi, en fait. Et toutes mes interrogations, mais bon, maintenant elles ont 21 et 19, donc je pourrais, bien sûr. Mais non, je me suis toujours interdit d'utiliser quoi que ce soit qu'elles aient pu dire ou fait, à part un texte ou deux qui leur sont vraiment adressés entièrement. Non, tout le reste, c'est vraiment, ce sont mes questionnements à moi. Mais heureusement qu'elles sont là, évidemment. Les deux,
mais il faut avoir une place d'observateur à un moment pour savoir, parce que pardon, mais vous n'êtes plus super super jeune, donc
au revoir. mais c'est
vous
sûr.
Êtes plus
mais
ado, après, quoi, voilà quoi. Savoir ce qui se passe dans les bandes d'ados et tout ça.
Oui, mais la grande chance qu'on a, c'est justement ce que Véronique, Agnès et Confluence nous offrent aussi, c'est de pouvoir rencontrer des enfants, des ados, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir leur proposer notre vision de l'adolescence, qui au final, même si évidemment il y a des grands changements, il y a des bases communes. Je pense que l'ado que j'étais n'est absolument pas ceux qui sont aujourd'hui. Mmh. Mais les questionnements sont les mêmes, malgré tout. Donc,
vous n'aviez pas de téléphone portable quand vous étiez ado.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Mais alors, des questions.
Il n'y en a toujours pas d'ailleurs.
Non, toujours pas.
Toujours pas, c'est vrai.
Si, ah, bon. Si, si, si.
Ah, ouais,
si,
c'est là, j'allais vous dire bravo si vous arrivez à faire ça. Vous en posez beaucoup, Marie-Laure Despolices, des questions, et notamment vous les posez dans vos ouvrages. Hein. Pourquoi les livres sont-ils pleins de mots? Pourquoi la mer est-elle salée? Pourquoi le vent est-il transparent? Pourquoi les pendules tournent-elles toutes dans le même sens? J'aime beaucoup cette question-là.
Merci.
Pourquoi les téléphones sonnent-ils? Voilà quelques-uns des albums jeunesse que vous avez commis. C'était une série? C'était
oui,
quoi l'idée?
Oui, c'est une série qu'on m'avait demandé en fait sur des contes étiologiques, et donc j'avais avec grand plaisir cherché des tas d'idées. J'en ai écrit beaucoup plus et l'éditeur avait gardé cette sélection-là. Voilà, je me suis beaucoup amusée à imaginer des réponses totalement farfelues à toutes ces questions. Avec un grand plaisir. J'ai adoré surtout écrire « Pourquoi le vent est-il transparent ?» C'est vraiment une question qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et voilà, j'imaginais ce que ça pourrait donner si le vent tout à coup se mettait à avoir des couleurs, et surtout si chaque vent avait une couleur différente. Et quel effet ça aurait sur nous, sur les maisons, sur les êtres, leurs pensées. Voilà.
Et souvent, on pense à l'écrivain avec l'angoisse de la page blanche. Et moi, je me dis que parfois, avec des questions comme ça, ça doit arriver, non ? La page blanche, mais pourquoi, je sais pas, ouais,
pourquoi les cailloux tombent-ils? Non, alors ça, c'est un problème qui ne m'arrive jamais. Je m'amuse beaucoup en écrivant et non, quand je me mets à écrire, l'écriture vient, me précède même parfois, et j'ai toujours plein d'idées. Le tout après, c'est de les mettre en ordre et puis d'en faire quelque chose de cohérent et que le lecteur pourrait prendre plaisir à découvrir.
Alors le lecteur, c'est justement l'enfant hein, qui... Alors je sais pas à partir de quel âge c'est pour...
Alors
vous,
cette série-là, c'était oui pour des enfants à partir de 5 ans. Mais...
C'est ceux qui posent tout le temps les questions à la
maison. Et oui, c'était...
Et pourquoi la mer est salée ?
Après, j'ai publié aux éditions Winux Machinerie à l'usage d'auteurs incertains, qui est plutôt un livre qui s'adresse à des adultes sur... justement ces auteurs là qui sont confrontés eux à la page blanche et puis qui cherchent des réponses. Et passionnée que je suis par l'Oulipo et par Raymond Queneau, j'avais imaginé des machines qu'on pouvait installer dans son salon pour trouver des éléments de réponses ou des idées, en tout cas quand on essayait d'écrire. Il y avait par exemple une machine à transformer une pièce en personnage, pour laquelle, en prenant tout un tas de mesures de la pièce, on pouvait transformer toutes ses caractéristiques architecturales en caractéristiques humaines, et créer donc un personnage sans avoir aucune imagination.
D'accord. Bon, ben voilà, c'est gentil de partager vos tuyaux, en fait, hein, avec ceux qui ont l'angoisse de la page blanche, l'angoisse de la page de pub, c'est maintenant.
CFM, à Moissac, 90.7.
À Montpezat de Quercy, le festival Bleu Trompette bouge. Du 1er juillet au 28 août, dans les rues historiques, découvrez une exposition gratuite exceptionnelle autour de l'ombre dans l'histoire. 12 œuvres géantes de l'artiste Bernard Perronne. Et aussi dans la salle des Ursulines, l'expo Groupe des Quatre. À Montpezat de Quercy, cet été avec le festival Bleu Trompette, venez vous évader au cœur du Quercy blanc. Toutes les infos sur bleutrompette.fr. Message réalisé avec le concours de la ferme auberge et du Mas de Monille. Masdemonille.com.
Du 20 au 23 juillet, Festival El Mediodía, 16e édition. Édition spéciale Colombie dans le jardin du stade à Corbarieux. 12 spectacles gratuits avec Oscar Castro, Rigo Ruiz, Seibalanta, Salsa Parrilla et plus de 80 artistes. Tous les jours, conférences, animations, expositions, marché artisanal. Samedi 22, repas spectacle avec Caribe Soy. Festival El Mediodía, du 20 au 23 juillet à Corbarieux. Restauration et buvette latino sur place. Accès libre et gratuit à tous les spectacles. Informations et réservations repas au 05 63 24 29 48.
Petit train, croisière sur le Tarn et visite guidée, Montauban célèbre sa première étoile au guide Michelin. Vous avez le pied marin ? Embarquez pour une balade ensoleillée au bord du bateau croisière le Zéphyr, au départ de Port-Canal. Vous préférez rester à terre ? Optez pour le petit train et sa visite inédite des plus beaux sites montalbanais. Mais aussi Montauban et ses terrasses, ses rues piétonnes ou la brise rafraîchissante de Port-Canal. Cet été, visitez Montauban. Pensez au guide de l'été, disponible à l'accueil de vos mairies du Grand Montauban et à l'office de tourisme. Toutes les infos sur www.montauban-tourisme.com.
Bienvenue.
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Cette semaine, dans PCV, le groupe Super Gombo. Super Gombo vient de sortir un album, son titre, Exploration. Super Gombo dans PCV, toute la semaine, à 11h30, 15h40, 18h50. Diffusion intégrale, samedi 22h.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Mercredi 19 juillet prochain, c'est l'événement Place au Livre, organisé à Montauban par l'association Confluence dans le cadre de cette grande fête du livre jeunesse nationale.
Oui, la 3e édition.
Et il y aura dès 10h à la Petite Comédie un atelier d'écriture et d'illustration avec Régis Lejon, auteur-illustrateur, et Thomas Scotto, ici présent. Quels sont les astuces que vous donnez à nos chères petites têtes blondes pour qu'elles arrivent à raconter une histoire?
Moi, je suis moins sympa que Marie-Laure parce que je leur dis toujours surtout n'écrivez pas, quoi, parce que ça va nous piquer notre boulot, ce qui les fait beaucoup rire en vrai. Mais mais là, en fait, on avait décidé avec Régis Lejon, qui est illustrateur, de faire un atelier en commun. Déjà parce qu'on s'entend bien. Et puis, rester sur quelque chose, sur des formats courts d'écriture pour que chacun puisse écrire, se faire plaisir, soit à partir de l'image qu'ils vont faire avec Régis, soit directement. Après, moi, je collectionne les mots, donc on partira forcément des mots, du choix des mots. Et après, assez rapidement, comme les mots... moi, je trouve que l'écriture, c'est vraiment du puzzle, en fait. Hein, c'est vraiment mettre bout à bout des mots que nous on choisit de mettre ensemble. Pas, voilà, et l'intérêt c'est que le style naisse de cet assemblage personnel des mots. C'est pour ça que Marie-Laure écrit pas de la même manière que d'autres, que moi non plus, et voilà.
Il faut un point de départ, il faut des règles au départ pour arriver à...
Moi j'en mets pas trop. Après, visiblement oui, finalement les enfants ou les ados ou les adultes aiment bien avoir des contraintes, parce que moi je ne supporte pas en écriture, c'est-à-dire que si on me fait une commande d'écriture, je suis vraiment pas bon. Parce que j'ai peur de pas y arriver, parce que voilà. Là, il faut un petit cadre, mais l'idée c'est quand même de repartir tous avec quelque chose où on se retrouve dedans. Que la patte, elle soit pas trop grande, même si nous, en tant qu'auteur, on insuffle notre goût et notre façon de faire.
À partir de quand on a écrit une histoire? Combien de mots? Combien de lignes?
Alors moi, ça peut être une ligne. Franchement, ouais. Je leur dis, mais c'est peut-être aussi très égoïste, c'est que comme j'écris très très court et que je veux me persuader que c'est bien d'écrire du court et que comme je ne sais pas faire des gros romans et des trilogies et des Harry Potter, j'essaye de leur dire qu'on peut raconter effectivement énormément de choses en très peu de mots. Donc je l'applique à ma propre écriture et je l'applique aussi dans les ateliers d'écriture. Donc parfois une phrase, mais une phrase peut nous bouleverser en fait. C'est ce que fait aussi Jeanne Benhamer, qui vient très souvent à Lettres d'automne, à Confluence. Jeanne Benhamer, elle, c'est une de ces auteurs qui, en une phrase, nous emmène dans tous les pays possibles.
Marie-Laure Despolis, vous faites vous aussi des ateliers d'écriture régulièrement?
Et oui, justement, j'en avais animé un au Muséen avant la fermeture. Oui, ça m'arrive.
Et alors, vous êtes d'accord avec ce que dit Thomas Scotto? Vous fonctionnez pareil ou différemment?
Ah, j'aime beaucoup ce que dit Thomas Scotto. Je fonctionne différemment, parce que comme il l'a dit, on est tous différents, c'est ce qui est important. Et que les enfants, justement, soient confrontés à plein d'auteurs différents, c'est génial. Et ben, moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec, comme j'ai ce goût pour l'Oulipo et pour la contrainte, j'aime bien en atelier les obliger un petit peu à aller dans une direction que j'ai choisie pour une raison que je leur explique, et souvent en leur racontant des histoires qui justifient mes choix. Voilà. Mmh.
Vous avez déjà fait des ateliers d'écriture, genre, je sais plus si c'est Raymond Queneau qui fait un bouquin sans E ou sans F, ou je sais plus.
Alors c'est Pérec, La disparition.
Ouais, voilà, ouais.
C'est trop difficile en atelier d'écriture.
Ouais. Alors aujourd'hui, pas de F, pas de E, pas de B. Ah.
T'imagines faire une émission de radio sans E, par exemple?
Ah. Bravo. On serait effectivement obligé de trouver quelques astuces. La girafe, qu'est-ce que c'est que cette histoire de girafe et de sablier? C'est un conte que vous allez compter au fil d'une promenade dans le cœur de ville. Ça, ce sera mercredi 19 juillet après-midi. Un petit peu de musique et puis vous nous en parlez dans un instant, Marie-Laure.
Voilà pour les Alabama Shakes, c'était Future People.
La girafe et le sablier. L'histoire de la girafe et du sablier, c'est une histoire que vous allez conter lors d'une promenade dans le cœur de ville, Marie-Laure Despolis.
Oui, alors c'est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un conte que j'ai écrit et qui a été publié par les éditions Winux et vraiment merveilleusement illustré par Peter Ware, qui est un plasticien anglais qui habite en Lozère et qui a fait des fresques géantes sur les murs de Mende. Et j'ai fait une promenade contée, c'était la première promenade contée sur cette histoire. Et puis les photographies des fresques servent d'illustration au livre. Et donc, pour en venir à l'histoire, vous me demandiez, eh ben cette histoire raconte les pérégrinations d'une girafe qui est passionnée de douceur de l'air et qui adore savoir si à l'endroit où elle se trouve, l'air est plutôt moelleux, doux, dur ou rugueux. Et elle cherche la meilleure technique pour calculer la douceur de l'air partout où elle passe. Son objectif est en fait de réaliser une carte du monde sur laquelle elle pourrait indiquer avec quatre crayons de couleurs différents justement la douceur des différents endroits. Et puis en faisant ses expériences dans le désert, elle avale malencontreusement un sablier. Et il se trouve que ce sablier est un sablier qui ne sait pas compter. C'est aussi toute une réflexion sur le temps par rapport à ce sablier qui n'arrive à compter que jusqu'à 1. Et puis le sablier est coincé donc à l'intérieur du cou de la girafe. Et que va-t-il se passer? Comment sortira-t-il? C'est ce que je raconte en me promenant donc dans le centre-ville de Montauban.
Alors calculer la douceur de l'air, c'est un peu ça rappelle un petit peu la question de pourquoi le vent est-il transparent. C'est un peu une obsession chez vous.
Il y a quand même une grande différence entre la couleur et la douceur. Non?
Oui, absolument. l'écriture, c'est quelque chose de solitaire. Il faut du calme, j'imagine. Il faut un bureau, enfin, je vous imagine très bien en train d'écrire plutôt seul. Le conte, raconter des histoires quand on se balade dans les rues de Montauban avec une horde d'enfants
et d'adultes.
C'est pas la même histoire, c'est pas la même relation finalement.
Oui, en effet, c'est très différent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans un livre, le texte est figé, alors que quand on se met à le raconter, le texte évolue de promenade contée en promenade contée. Il change en fonction des réactions des enfants, en fonction de l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, adapter l'histoire à l'endroit, parce que c'est ce qui va se passer là, puisque ce sera pas gratuit, en fait, le tour de Montauban.
Il va falloir payer 15 euros.
Ah non, alors c'est gratuit, c'est vrai. Mais en tout cas, le choix des lieux, lui, est pensé. Et l'histoire évolue, l'histoire bouge. Et quand je relis le livre maintenant, ce qui m'est arrivé récemment, parce que je voulais aller vérifier quelque chose, je me rends compte que l'histoire a beaucoup, beaucoup changé.
Il y aura peut-être une réédition.
Non,
mais c'est vrai que ça vous arrive jamais d'avoir un bouquin qui est fini, ça y est, il est édité, il est joli, il est dans la librairie, et puis vous dites, oh, mais j'aurais pas dû l'écrire ça, j'ai eu l'idée trop tard, mais c'est trop tard maintenant. On peut pas rééditer, on peut pas refaire. Non, ça vous arrive jamais?
Non.
Non, pareil. Non, parce que c'est malgré tout beaucoup de travail. Moi, je sais que je suis un laborieux en écriture. C'est même pas quelque chose, je le dis moyen aux enfants, mais que j'aime vraiment le moment de l'écriture. J'aime quand c'est terminé. J'aime le début, j'aime quand c'est terminé. Tout l'entre-deux où il faut, J'aime au final, c'est viscéral, je ferai toujours ça, mais, et des fois, je m'aperçois même pas que j'écris, donc c'est bien, mais, c'est du vrai vrai boulot de pour travailler les mots, et ce qui fait que moi, une fois que le texte est fait, très honnêtement, c'est rare, vraiment rare que je le retouche ou que j'en ai envie, quoi.
Content, débarrassé, quoi.
Hein? Oui.
Avant d'attaquer le suivant, quand même.
Oui, bien sûr. Oui. Mais en fait, il y en a toujours un suivant qui est entamé.
T'arrêtes jamais, en fait.
Non.
Vous écrivez une histoire après l'autre, ou vous pouvez avoir plusieurs histoires en même temps?
Alors, personnellement, c'est plusieurs histoires à la fois. C'est aussi pour ça que, effectivement, il n'y a pas l'idée de la page blanche non plus, parce que je rebondis sur plusieurs histoires. Et puis, comme c'est pour des âges très, très différents, il y a vraiment l'idée de pas s'ennuyer. C'est vrai qu'on n'écrit pas de la même manière pour des enfants de 3 ans que pour les ados de 17, même si, à mon avis, on peut leur parler du même sujet, ça y a aucun problème. Donc, plusieurs histoires à la fois, et puis, et tout s'enchaîne petit à petit. Donc, les histoires montent.
Pour vous, pareil, Marie-Laure Despolis?
Par rapport à
l'écriture en plusieurs ouvrages en même temps.
Ah oui, tout à fait. Effectivement, oui. Mais c'est aussi des histoires assez courtes. En ce moment, en plus, j'écris des formats assez courts. Donc effectivement, les idées viennent. Et quand on écrit, justement, d'autres idées viennent parce qu'on est en train d'écrire et que tout ça, en fait, se nourrit. Et puis, ben voilà, des idées qui ne vont pas ensemble dans une même histoire, mais qui du coup nous obligent un peu, oui, à traiter plusieurs textes à la fois, oui.
Est-ce que vous rêvez, Thomas Cotto, Marie-Laure Despolis, d'avoir un jour un de vos ouvrages qui rentre vraiment dans le sérail de l'éducation nationale et qui soit dans toutes les classes de CE2 ou de CM1 étudiées, lues comme, je sais pas, les fables de La Fontaine, tiens. Pour, comme ça, je cite personne d'actuel. Ou Raymond Queneau, on parlait de Raymond Queneau avec Zazie dans le métro, par exemple.
Mais oui, évidemment, mais c'est une grande chance déjà de, je trouve qu'on, d'être dans les classes. Alors, pas tellement par le biais effectivement de l'éducation propre, mais par le plaisir du livre. Moi, je m'aperçois que peut-être que si on étudiait un de mes livres comme Une fable de La Fontaine, à quel moment, moi, j'admire les enseignants pour ça. C'est-à-dire à quel moment on s'arrête pour laisser le plaisir de la lecture et que ce soit pas devenu quelque chose de, oui, un apprentissage forcé, quoi, qui, à mon avis, je vais pas dire dégoûte l'enfant, c'est pas vrai, parce qu'on est tous passés par là, mais le jour où un sixième, quand je suis arrivé dans la classe, m'a dit, c'est toi, Thomas Cotto? Ben oui, ah ben merci, hein, grâce à toi, j'ai eu 4. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais plus jamais, pitié, ne faites pas étudier nos livres avant, les étudier, oui, enfin, je veux dire, les faire lire, pas les noter, quoi, parce que là, on casse tout. Moi, je viens avec le plaisir de, bonjour, les enfants, et puis tu parles, on perd tout, là, je crois. Après, qu'un livre marche, ça serait super. Hein.
Je crois que c'est Pénac qui, dans Comme un roman, dit, vous êtes prié de ne pas utiliser nos livres comme objet de torture pédagogique, et voilà, je crois que c'est un peu ça, l'idée. Oui, effectivement, qu'un livre marche, c'est-à-dire qu'il soit lu, en fait, puisque on écrit, si on publie, c'est qu'on écrit aussi pour partager, pour être lu. Donc oui, qu'un livre marche, c'est effectivement un rêve. Oui, c'est ça. Mmh.
Vous avez des souvenirs de lecture enfant ?
Ah oui, beaucoup. Ben oui, j'ai la chance d'avoir des souvenirs de lecture enfant. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants dont le livre n'est pas la priorité parce qu'on leur transmet pas. Moi, je me rappelle du premier livre. Souvent, je leur demande quel est le premier livre dont ils se rappellent. Et parfois, c'est un livre de tout petit. C'est on a les Tchoupis, on a toute la batterie de cela. Et puis des fois, il y en a un qui nous sort.
Oui, c'était voilà. Quoi ?
Moi, c'était Ungerer. C'était le Jean de la Lune de Tommy Ungerer parce que c'était le grand début de l'école des loisirs et qui sont tous devenus des classiques en plus. Hein, donc c'est ce souvenir-là.
Et vous, Marina ?
Moi, j'ai des souvenirs aussi de lecture, de contes, en fait, de contes du Chat-Perché, ou alors des tout petits albums. Émilie, là, cette petite fille en noir et blanc avec des taches de couleur rouge. Il y a, oui, de nombreux souvenirs de lecture, petite fille, oui.
Et moi, j'ai des souvenirs de lecture collective dans ce grand livre que l'animatrice, le soir avant d'aller se coucher, ouvrait et on était tous autour et elle nous lisait un conte, Le Chat Botté ou autre chose. Et je trouve que c'était aussi une belle porte vers ce qu'il y avait dans les livres qui était parfois assez inaccessible en fait. Et vous faites ça, vous allez lire Thomas Cotto mercredi aussi.
Oui.
Avec l'objet dans la main.
Alors moi, j'avoue, j'ai l'objet livre parce que je ne suis pas conteur, je ne suis pas comédien. J'aime en revanche incarner les histoires, comme tu disais, même si c'est pas les miennes. Mais j'ai besoin de l'objet livre simplement pour montrer que cet objet, c'est pas un danger, que effectivement on peut l'ouvrir et on peut partir vraiment loin, mais que cet objet, oui, je trouve que c'est un très bel objet de toute façon. Donc bon, même si effectivement très souvent je connais les histoires par cœur, mais j'ai besoin d'avoir le livre sous les yeux.
Rendez-vous mercredi pour partir en livre. On redonne les points de rendez-vous.
Donc,
Véronique.
Ouais, pour réserver l'atelier d'écriture et d'illustration, puisque les places sont limitées, vous pouvez appeler Confluence ou aller sur notre site internet, voilà, pour nous contacter. Après, rendez-vous pour le pique-nique littéraire à 12h30 sur la place nationale. Pour la balade comptée, le départ se fera également place nationale près de la librairie Le Bateau Livre à 14h30. Régis commencera sa grande fraise collective, donc là, pas besoin de s'inscrire, vous passez, vous faites un petit dessin à partir de 15h30, 17h30 la lecture de Thomas, et puis donc il y aura un temps de dédicace où vous pourrez rencontrer nos trois auteurs, illustrateurs.
Place nationale, voilà, au Bateau Livre. Hein.
Voilà, tout à fait.
Merci d'être venu.
Je voulais juste rajouter une info très importante. Au mois d'avril-mai, on a animé des ateliers avec les enfants de la Comète, avec le plasticien Mourad Malawi. On a fait 2 boîtes aux livres, une qui est installée au centre social de la Comète et une qui vient d'être installée hier sur le parvis du théâtre. Et voilà, on est très contents et on incite tout le monde à faire vivre ces boîtes aux livres.
Ça sert à quoi une boîte aux livres?
Eh bien, on met des livres, on en prend, c'est un échange, voilà. C'est un lieu d'échange des livres et de partage de livres.
Et qui est situé ?
Donc sur le parvis du théâtre, vous pouvez pas la rater. Et je pense que Marie-Laure y fera escale lors de sa balade comptée.
C'est prévu. Voilà.
Marie-Laure Despolis, Thomas Cotto, Véronique Bernard, merci d'être venus.
Merci à vous.
CFM. CFM.
Info. CFM. Les infos.
Bonsoir à tous. C'est une première pour la plus haute juridiction de France. Le Conseil d'État appelle le gouvernement à agir en matière de pollution de l'air aux particules fines et au dioxyde d'azote. L'instance invite le gouvernement à mettre en place un plan pour la qualité de l'air pour ramener les valeurs en dessous de celles fixées par le Code de l'environnement. Un plan qui doit être mis en place dans les plus brefs délais, ajoute l'instance. Et chaque année, la pollution de l'air aux particules entraînerait la mort de 48 000 personnes dans le pays, selon l'agence Santé publique France. Et puisqu'on parle d'environnement, cette nouvelle qui nous vient tout droit d'Antarctique, un iceberg de 5800 km², l'un des plus gros jamais vus. Elle s'est détachée d'un glacier dans l'extrême ouest du continent. À titre de comparaison, il est 60 fois plus grand que la ville de Paris. Les experts s'inquiètent de la dangerosité de cet immense amas de glace à la dérive et qui pourrait endommager les bateaux. Au lendemain de la mort du juge Lambert, une enquête est bien évidemment ordonnée. On apprend qu'une autopsie aura bien lieu. Je vous rappelle qu'on a retrouvé son corps hier soir à son domicile du Mans. Les premières constatations conduisent à un suicide. Un rebondissement de plus dans cette terrible affaire Villemain qui a poursuivi le juge jusqu'à la fin de sa vie. L'actualité politique en français, ce plan migrant présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Un plan destiné à mieux préparer le pays à l'afflux migratoire. Parmi les mesures annoncées, Édouard Philippe compte créer 12 500 places d'hébergement d'ici 2019. Pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile qui devront désormais impérativement quitter le territoire français si leur demande est refusée par les autorités. La codéine interdite à la vente sans ordonnance. Le ministère de la Santé vient de décider avec effet immédiat que tous les médicaments contenant de la codéine ne seront plus en vente libre à la pharmacie. Il faudra d'abord se les faire prescrire par un médecin. Depuis le début de l'année, 5 cas d'intoxication grave à la codéine ont été signalés chez les adolescents, dont 2 cas mortels. Et puis la suite du Tour de France avec la 11e étape aujourd'hui, une étape à travers les Pyrénées entre Aimay et Pau. Christopher Froome est toujours en jaune. Très bel après-midi à tous.
CFM. CFM.
Coxy Bio, votre épicerie bio à Haussonne-Montauban vous présente Aquiltour. Coxy Bio, au service du bio et de vos papilles.
CFM. CFM. Aquiltour, 17h30, 19h. CFM.
À qui le tour, bonjour.
Salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Petite île, grand enjeu. Voilà le titre de la première de couve de l'âge de fer numéro 121. Juillet-août, un ouvrage mensuel que nous allons feuilleter en compagnie de Fabien Ginesti dans quelques petites minutes. Et puis ensuite, ce sera vos critiques de films qui seront lues à l'antenne. Avec une partie du Spoil Club, celle qui n'est pas partie en vacances. Si vous avez posté votre critique sur cfmradio.fr, restez bien à l'écoute, elle sera lue tout à l'heure. Et puis d'ici là, on vous fera gagner aussi des cadeaux, hein. On fait ça Aurélien?
Bah, bien évidemment, au 05 63 930 020.
On fera ça dès dans pas longtemps, dès cette demi-heure là, hein. on va distribuer des cadeaux parce qu'on a des cadeaux pour le festival Africa Jar, on a des cadeaux des disques, là j'ai des super vinyles de Super Gombo qui est dans PCV toute cette semaine, j'ai des places également pour le festival d'Offenbach, des châteaux de Bruniquel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Des descentes en canoë kayak dans les gorges de l'Aveyron.
Carrément avec Caïman en location ou Actio Vive, on peut choisir. Et puis voilà, et puis plein d'autres choses, des places de ciné, enfin tout ça quoi.
Et bien puisqu'on va parler des îles, on va écouter Julien Doré avec Coco Caline.
Coco divine, viens.
Julien Doré, c'était Coco Caline et notre invité ce soir, Fabien Ginesti, rédacteur en chef de L'Âge de Fer.
Oui, L'Âge de Fer qui a décidé de nous mettre presque en vacances pour ce numéro de juillet-août. En faisant un dossier sur les petites îles, grands enjeux, comme ils ont l'habitude de faire à L'Âge de Fer, en faisant la plupart du temps le tour de l'exercice.